Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Douche froide pour le camp pro-européen. Les résultats de la commission électorale donnent le parti Le Rêve géorgien, pro-russe, gagnant des législatives avec un peu plus de 54% des voix. L'opposition crie à la fraude, d'autant que des observateurs dépêchés sur place ont fait part d'irrégularités lors du scrutin. Salomé Zourabichvili, la présidente pro-européenne, appelle ses concitoyens à descendre dans les rues.
Ces élections ne peuvent pas être reconnues, car cela reviendrait à valider l'entrée de la Russie dans le pays. La soumission de la Géorgie à la Russie.
Des législatives cruciales, alors que Bruxelles avait fait comprendre à Tbilissi que sa procédure d'adhésion en dépendrait. Emmenés par l'oligarque Bidzina, Ivanichvili, les pro-russes ont fait campagne en agitant un argument principal. Voter pour les pro-européens, c'est risquer la contagion de la guerre en Ukraine à leur pays. Une rhétorique qui trouve un certain écho alors que 20% du territoire est toujours occupé par la Russie, comme chez cette institutrice déplacée par la guerre de 2008.
Oui, il faut améliorer les relations avec la Russie, bien sûr. Quel sens cela a de se battre? Est-ce qu'un pays aussi petit que le nôtre peut supporter une guerre?
Un autre pays est ballotté entre pro-russes et pro-européens. En Moldavie aussi, un vote se tenait, c'était il y a 8 jours. En même temps que le premier tour de la présidentielle, un référendum. Pour ou contre l'inscription dans la Constitution du principe d'adhésion à l'Union européenne. Le oui l'a emporté avec 50,46% des voix. Une victoire de justesse due à des interférences russes, selon la présidente pro-européenne, Maya Sandu.
Il s'agit d'une fraude inédite. L'objectif était de saper le processus démocratique et de semer la peur et la panique dans la société.
Quel poids ont joué les ingérences russes dans ce scrutin? Ces votes sont-ils un référendum pour ou contre l'Europe? L'Union européenne fait-elle encore rêver ces deux ex-républiques soviétiques?
Nos trois invités pour ce débat, Max Erwan Gastineau, bonsoir, essayiste, spécialiste des relations internationales. Votre dernier essai, l'ère de l'affirmation, répondre au défi de la désoccidentalisation. Selon vous, les résultats en Géorgie et en Moldavie, les résultats de ce week-end, donc, devraient interroger l'Union européenne. Elle est perçue là-bas comme trop engagée en faveur de l'Ukraine, menaçant d'entraîner leur pays dans une guerre qui n'est pas la leur. Dites-vous, à côté de vous, Otar Zourabichvili, bonsoir monsieur, président de l'association géorgienne en France, et vous êtes, je le dis, je le précise, le frère de la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili. Selon vous, ce qu'il s'est passé lors des élections en Géorgie dépasse les malversations habituelles. Il y a un système totalement organisé de fraude colossale, à l'initiative des Russes, semble-t-il, alors que 80% de la population géorgienne rêve d'une Europe, d'intégrer une Europe démocratique et libérale. Et à côté de vous, Vera Grandseva, bonsoir madame, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po. Votre dernier livre, Les Russes veulent veulent-ils la guerre? Selon vous, le résultat de ces élections montre les profondes divisions qui agitent les sociétés de ces deux anciennes République soviétique. On va démarrer avec la carte du
Exactement,
jour.
Exactement, deux anciennes républiques soviétiques donc aux portes de l'Europe, hein, la Géorgie tout d'abord qui repousserait en cas d'adhésion les frontières de l'Europe au-delà de la mer Noire et qui a une frontière commune avec la Russie, Moscou qui s'est en 2008 arrogé les deux régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud en quelque sorte, et la Moldavie coincée, elle, entre l'Ukraine et la Roumanie avec là aussi une région, la Transnistrie, sous occupation russe. Max Erwan Gastineau, en fait, la pression russe, la présence russe, elle n'a jamais vraiment disparu depuis l'effondrement du mur.
Complètement. On parle souvent du sommet de Bucarest en 2008, où la France et l'Allemagne s'étaient opposées à un communiqué final qui devait acter l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Donc c'est en effet une vieille histoire. La Russie a une conception assez classique, assez traditionnelle de la géopolitique, qui résonne en termes de sphère d'influence, et elle veut en effet maintenir un certain contrôle sur sa périphérie la plus proche. Et donc ça a des effets sur un certain nombre de scrutins, ça me semble en effet tout à fait manifeste, notamment à l'aune de ce qui s'est passé en Moldavie et en Géorgie.
Otar Zourabichvili, et en Géorgie tout particulièrement, que vous connaissez bien donc, bien c'est 2008 qui marque une année importante, presque un tournant, avec quasiment l'annexion de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, où les Européens sont restés un petit peu timides dans leur réaction.
Voire timorés.
Oui. Absolument. En 2008, après Bucarest, et c'est d'ailleurs peut-être une des explications à ce qui s'est passé après, débute l'invasion de la Géorgie alors que la plupart des chefs d'État sont aux Jeux Olympiques, y compris notre président de l'époque.
Vous rappelez qui il était?
Nicolas Sarkozy fera le déplacement
une fois que les choses seront faites et permettra d'établir un plan, je dirais, de paix qui finalement restera en l'état et jamais jusqu'au bout, puisque les deux provinces qui étaient normalement devaient recouvrer leur l'indépendance et rejoindre le giron de la Géorgie resteront comme des provinces occupées.
Mais ça veut dire, Vera Grandseva, que les populations de ces deux pays-là, quels sont leurs sentiments par rapport aux Russes? Parce qu'on a vu qu'en effet, il y avait des partis, on dit pro-russes, et des partis européens. Est-ce que les populations sont divisées vis-à-vis de l'ancienne puissance qu'était la Russie soviétique?
Oui, je crois qu'il y a des divisions par rapport à ce sujet. Bon, peut-être il faut distinguer l'attitude par rapport au peuple russe et la culture russe, parce que la plupart des, comme beaucoup de gens en Géorgie, en Moldavie, sont russophones. En plus, ils connaissent très bien la culture russe. Après, il y a le régime de Poutine qui a une certaine stratégie envers les pays post-soviétiques. Donc ici, effectivement, il y a les divisions. Et on voit que dans chaque pays, il y a ses faiblesses et ses peurs internes que Poutine, en fait, exploite pour mieux régner et pour diviser encore davantage ces pays. Donc en Moldavie, effectivement, il y a aussi les régions séparatistes de Transnistrie, il y a aussi les élites très corrompues, il y a les pauvretés des populations que Poutine utilise beaucoup. En Géorgie, effectivement, il y a les mémoires de l'invasion de 2008 qui ont aussi beaucoup marqué la population. Il y avait un sentiment assez anti-russe. Je me rappelle quand j'ai visité en 2012, et mes amis de mon âge aussi, en fait, n'étaient pas très pro-russes à l'époque. Voilà. Donc il y a des divisions internes que Poutine en profite beaucoup, en fait.
Oui, vous parlez des amis de votre âge. Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle aussi, Max Erwan Gastineau, par rapport à ça, par rapport à une vieille adhérence, peut-être même une nostalgie de la Russie, le giron, la mer russe, et est-ce que les jeunes sont beaucoup plus portés vers l'Europe occidentale et ses valeurs?
Alors, il y a un clivage générationnel en termes de valeurs, notamment. Hein. On voit bien, et quand on suit notamment le scrutin en Géorgie, que l'équipe gouvernementale met l'accent sur les valeurs plutôt traditionnelles, les opposants aux valeurs plus progressistes qui orienteraient la Géorgie vers l'Union européenne. Et ça, vous le retrouvez dans différents pays européens où on met beaucoup l'accent sur ce clivage à la fois générationnel et de valeurs, mettant en avant notamment la religion, le poids de la religion, et puis les questions, disons, sociétales, LGBT, qui prennent du poids dans toutes les démocraties occidentales. Et c'est là où il faut aussi souligner une stratégie assez intéressante côté russe, qui est de se présenter comme étant en quelque sorte une superpuissance conservatrice qui accompagnerait les pays soucieux de préserver leur identité nationale face à une Union européenne accusée, elle, d'oublier ses racines.
Otar Zourabishvili, justement dans votre pays, en Géorgie, il y a quelque part une scission dans la population qu'on retrouve au sommet de l'État entre votre sœur, la présidente, et le Premier ministre. Comment ça s'est articulé, ça, pour qu'il s'éloigne autant?
Je pense que les choses ont commencé au moment du début de la guerre en Ukraine, où très clairement et progressivement le pouvoir a orienté un peu sa politique, a orienté ses déclarations. Très rapidement est arrivé derrière ce qu'on a dénommé être la loi russe, celle de la transparence, dans lequel la population, et pas que la population jeune, y a vu un copier-coller de la loi en Russie. Puis il y a eu d'autres lois aussi liberticides que celle-là, et on peut imaginer assez raisonnablement que cette loi était quelque chose qui préparait l'arrivée des élections et qui était un travail de sape préalable pour affaiblir les organisations non gouvernementales qui regroupent beaucoup de jeunes.
Et Vera Grandseva, il y a quand même la peur, alors les Russes jouent là-dessus, et les partis qui la soutiennent, d'ukrainisation, c'est-à-dire que la guerre vienne dans ces deux pays-là. C'est aussi là-dessus que jouent les partis pro-russes?
Effectivement, c'est devenu pour moi une partie de stratégie de Poutine, c'est l'intimidation des populations en Moldavie, peut-être un peu moins d'ailleurs, parce qu'ils sont habitués effectivement à ce conflit en Transnistrie, en Géorgie beaucoup, parce qu'on a vu comment le parti qui est maintenant devenu pro-Poutine, pro-russe, a joué sur cette idée qu'il faut à tout prix éviter la guerre. C'est un de leurs slogans d'ailleurs, soit nous, soit la guerre. Donc voilà, c'est effectivement l'intimidation qui a fonctionné beaucoup avec la société par la peur que de répéter le destin de l'Ukraine qui est depuis déjà 3 ans en guerre contre la Russie.
envahie et agressée par la Russie.
Oui, oui.
Non, vous n'êtes pas d'accord?
Non, mais la Russie joue sur les peurs. Puis il y a aussi quand même des effets concrets à la guerre en Ukraine, sur notamment les prix de l'énergie. Lorsque la Moldavie a décidé de se couper de l'approvisionnement énergétique, notamment gazier russe, ça a eu des effets directs sur l'économie locale, une multiplication par 7 des prix du gaz, par 4 de l'électricité. Donc vous avez aussi, également en Europe centrale et en Europe occidentale, des répercussions concrètes pour les peuples. Je rappelle qu'il y a eu des élections, par exemple, en Slovaquie, en début d'année, où l'équipe social-démocrate de Robert Fico a remporté les élections, avec un discours anti-guerre, au nom du fait qu'il fallait préserver les intérêts économiques nationaux face à une Union européenne qui, du fait de sa volonté d'alimenter, elle était accusée d'alimenter le conflit en Ukraine, provoquerait un certain nombre de retombées négatives sur l'économie de ces pays.
Alors, on va évoquer avec vous, Fanny, les ingérences russes, et en l'occurrence, elles sont incarnées par, en Moldavie, en Géorgie, par deux oligarques, ou en tout cas deux milliardaires, plus ou moins douteux.
Et oui, Bidzina Ivanishvili en Géorgie, Ilan Shor en Moldavie. Alors, l'ex-oligarque Bidzina Ivanishvili a fait fortune en Russie dans les années 90. À l'époque, il avait même la nationalité russe. En 2012, il crée Rêve Géorgien, le parti, puis devient Premier ministre dans la foulée pendant une durée d'un an. Aujourd'hui, il dirige toujours le pays dans l'ombre. Il a placé ses proches à des postes clés et se servirait de sa fortune estimée à 5,5 milliards d'euros, soit plus que le budget de l'État géorgien, pour acheter les votes de travailleurs pauvres ou de certaines entreprises. Son discours ressemble beaucoup à celui du Kremlin dont on parlait il y a quelques instants, respectueux des traditions, de la religion, hostile aux LGBT et à l'Occident, qu'il appelle, je cite, le parti mondial de la guerre. Malgré tout cela, il y a tout juste 3 ans, il recevait en France la Légion d'honneur pour avoir fondé une association caritative internationale. En Moldavie, l'ingérence russe est l'œuvre d'Ilan Shor, un homme d'affaires israélo-moldave surnommé, je cite, l'homme du Kremlin, par les renseignements internationaux. Il a la nationalité russe, il vit en exil à Moscou parce qu'il a été condamné par la justice moldave à 15 ans de prison pour blanchiment et fraude. Selon le groupe de réflexion moldave Watchdog, il aurait financé la diffusion sur Internet de messages en soutien à la Russie. Il aurait aussi payé des citoyens contre un vote favorable aux pro-russes lors du référendum d'adhésion à l'Union européenne. Otar Zourabichvili, ces deux oligarques, ils ont vraiment eu un impact lors de ces deux scrutins qu'on a vus dans ces deux pays?
Le scrutin que l'on vient de voir est un coup d'État électoral. C'est à l'opposé des scrutins habituels dans lesquels les partis d'opposition tablent en général sur une fraude estimée à une dizaine de pourcents. Ont été là complètement surpris, complètement déstabilisés par le fait qu'il y a eu une fraude absolument massive et systématique. Cette fraude, elle a été construite à la fois dans la période préélectorale. Moi, je représente la diaspora géorgienne. C'est 1 million d'individus. Ces 1 million d'individus donnent 33 000 votes. Autrement dit, on a volé tout un ensemble de cette population et on a retiré les possibilités de vote à cette population.
Ça veut dire que votre vote, par exemple, vous estimez qu'il n'a peut-être pas été pris en compte dans cette élection?
Personnellement, il a été pris en compte.
Parce que vous êtes le frère de... Voilà. Mais le pourcentage est très faible, si vous dites.
Le pourcentage est extrêmement faible, c'est moins de
6%
de la diaspora qui a pu avoir accès au vote. Et puis en Géorgie, là, autant dans les pays européens, on imagine que quand on vote en France, on est quand même protégé par les lois françaises et on n'a pas de crainte particulière. En revanche, en Géorgie, quand on vote, on peut être inquiété de voter, on peut être amené à voter, on peut être payé pour voter.
Ah, c'est ça,
et plus, si on ajoute à ça le fait qu'il y a cette année l'introduction d'un système électronique qui est lui-même difficile à contrôler, dont on ne sait pas la finalité, les enquêtes sont en cours, on verra ce que ça donnera. Et je dirais, il y a un élément qui est très... qui exprime assez bien l'implication de l'électorat. En général, quand on a 54%, il y a une ferveur populaire qui se manifeste. Ouais. La nuit qui a suivi le vote en Géorgie, les rues étaient absolument vides. Donc on comprend bien que les gens pressés de voter dans un sens, soit se voient menacés de perdre leur emploi, soit on comprend bien que les votes qui sont jetés par panier entier, ils n'ont pas d'individu derrière.
Marc Serwan Gastino, coup d'État électoral. Ouais.
dit votre voisin. Est-ce que vous dites la même chose? L'OSCE semble un peu ambigu, ambivalent dans son avis actuel, hein, qui est censé avoir supervisé et regardé comment ça se passait, ces élections en Géorgie.
C'est-à-dire qu'il y a des cas de, d'ingérence manifeste, hein, on en a parlé, puis en même temps, il y a un discours politique qui trouve un certain écho dans la population. Et pourquoi? Parce que ce discours est quand même fondé sur un certain nombre de réalités. On a parlé des retombées négatives économiques, notamment énergétiques, dues à la guerre en Ukraine. Mmh. Il y a la peur d'être embarqué dans de nouveaux conflits face à la ligne géopolitique européenne incarnée notamment par Madame Callas, qui va prendre la tête de la diplomatie européenne et qui incarne justement...
Pour remplacer Josep Borrell. Hein,
pour remplacer Josep Borrell, qui va incarner justement une ligne offensive en soutien de l'Ukraine. Insécurité physique liée à la peur que la Russie se réveille sur le front géorgien et moldave, insécurité économique, et puis, on en a parlé un petit peu, insécurité culturelle, avec ces questions identitaires qui prennent un poids de plus en plus important dans toutes les démocraties, et on l'a vu encore une fois
Vous avez l'air de dire donc qu'il n'y a pas eu tant d'ingérence que ça, ou
il y a eu
l'ingérence. Il faut pondérer les ingérences
par rapport... Et en même temps, pour bien analyser l'ensemble de ce qui s'est passé, il y a aussi des réalités locales, culturelles, sécuritaires et économiques qui ont joué dans l'esprit d'un certain nombre d'électeurs.
Vera Grandseva, ça veut peut-être dire, et ça ne fait pas plaisir à nous Européens, que l'Europe ne fait pas peut-être rêver tous les pays européens. Et c'est en tous les cas une partie de la population de ces pays, comme la Géorgie et la Moldavie. Est-ce qu'on peut prendre ça en considération aussi?
À mon avis, il y a des critiques de l'Europe dans la société, comme la société de la Moldavie ou de la Géorgie. Ça, ce serait bizarre de nier. Après, l'ampleur de cette critique et le rôle vraiment de régler des valeurs, ici, on peut en discuter, parce qu'effectivement, il y a toute la nouvelle génération qui est plutôt pro-européenne, d'ailleurs en Moldavie et aussi en Géorgie, qui n'a pas peur de vivre dans la cité où il y a les homosexuels, etc. Donc, c'est... Voilà, à mon avis, c'est discuté.
J'ajouterais que sur la qu'en Géorgie, il faut rappeler que dans les années qui ont précédé ce vote, régulièrement, tous les sondages donnent 80 à 85% de la population en faveur de l'Europe.
Des sondages faits par sondages faits par des instituts de sondage.
Absolument,
mais oui. Le géorgien, c'est ça qui est en opinion.
Internationaux.
L'équipe gouvernementale, l'équipe en place au pouvoir en Géorgie n'est pas contre l'Union européenne. Alors, justement, ils ont un discours assez.
On va l'écouter, mais voilà. Faut-il le croire. Mais on va quand même écouter le Premier ministre de Géorgie, Irakli Kobagidze, qui est pro-russe, proche de Moscou, et il assure pourtant qu'il veut porter l'adhésion de son pays à l'Union européenne à son terme.
Otar
Zorabishvili, vous le croyez ou pas alors, le Premier ministre, quand il dit ça?
Je vous ferai simplement rappeler que la présidente de Géorgie, qui a fait des déplacements justement pour convaincre les partenaires européens, a été l'objet d'un impeachment.
Donc il est téléguidé, ce Premier ministre, qu'on soit clairement...
L'ensemble du gouvernement est téléguidé, c'est la verticale du pouvoir qu'on retrouve en Russie, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui tiennent la totalité de la société et de la société économique géorgienne.
Alors Viktor Orban, qui est quand même le président en exercice de l'Union européenne, il est arrivé en Géorgie pour un déplacement de 48 heures, sauf que, eh bien, il est contrecarré en quelque sorte par Joseph Borrell, hein, le chef de la diplomatie européenne, qui dit qu'il ne représente pas l'Union européenne, il n'a pas de compétences en politique extérieure, certes, Vera Grandseva, mais il fait partie de l'Europe, et la Hongrie fait partie aujourd'hui de l'Europe, et on voit aussi toute l'ambivalence de l'Europe de ne pas reconnaître tous ses membres non plus dans leurs différences, et c'est ça aussi que les autres pays constatent.
Oui, c'est vrai. Ici, on voit un peu l'instrumentalisation d'Orban et de son rôle dans l'Union européenne. Bien sûr qu'il ne représente pas l'Europe, c'est plutôt la façon de légitimiser ce qui se passe.
Il dirait qu'il représente une autre Europe.
Voilà, mais bon, qui a dit ça? Qui lui a donné ce droit de représenter l'autre Europe? Il représente l'Europe qui n'est pas très développée, qui a des problèmes économiques, qui a aussi des divisions internes. Non, je crois pas, dans le sens que ce n'est pas très attirant. Et du coup, ce n'est pas ça que voulait dire cette visite. Visite plutôt voulait dire qu'il y a aussi des pays qui ressemblent peut-être aux pays comme la Moldavie, la Géorgie en Europe, donc du coup il y a une certaine proximité avec ces pays-là.
Et Max Erwin Gastineau, dans la vision de Viktor Orban, son Europe, c'est une Europe conservatrice, chrétienne orthodoxe éventuellement, illibérale, mais c'est une Europe tout de même.
Oui, Viktor Orban, depuis une dizaine d'années, on fête en quelque sorte les 10 ans de son grand discours sur l'illibéralisme, où il disait Des pays non occidentaux aujourd'hui tirent leur épingle du jeu dans la mondialisation. Ils ne sont pas toujours des démocraties, ils sont parfois même des dictatures, et pourtant ils apportent leur succès, un certain succès économique à leur population. C'était son discours de 2014, et je crois qu'aujourd'hui ça irrigue sa vision géopolitique. Il considère que l'Europe doit en quelque sorte se désenclaver du camp occidental pour s'ouvrir à des régimes orientaux, la Chine, la Turquie, la Russie, au nom d'un prisme qui met l'accent sur l'intérêt national, au nom d'une vision un peu cynique et réaliste des relations internationales, qui considère que l'économie prime et les valeurs doivent être, elles, simplement incarnées par des nations qui conservent une certaine indépendance dans l'Europe. Parce qu'on parlait en effet de la position ambiguë sur la construction européenne de Tbilissi. C'est un peu la même ligne que celle de Viktor Orban. Nous restons dans l'Europe parce que, de toute façon, notre population est majoritairement pro-européenne, mais une Europe qui doit évoluer de l'intérieur et reconnaître davantage des différences nationales.
Otar Zorabichvili, comment vous vivez cette arrivée, cette visite d'Orban sur place ?
Au lendemain du scrutin.
C'est extrêmement intéressant, c'est une visite d'État. Donc les visites d'État sont des visites qui sont prévues, planifiées, anticipées.
Programmées bien avant.
Et la concordance de la visite d'État avec le résultat des élections laisse entrevoir que le résultat des élections est lui-même programmé à l'avance.
Donc il connaissait, vous dites que tout ça était déjà
Orban,
fait, organisé.
Vous regarderez les félicitations d'Orban, ont anticipé la publication officielle des résultats.
D'aucuns pourraient dire que vous êtes conspirationniste en disant ça et en impliquant qu'il y avait...
Ce qui est d'Orban, on peut être conspirationniste admis.
Mais alors pourquoi, pardon, mais vous en voulez... est-ce que vous en voulez, par exemple, à l'Europe aussi, qui n'a pas su faire la promotion de ce qu'elle défend. Ursula von der Leyen, quand même, elle a fait sa retournée dans les Balkans à travers 6 pays candidats à l'Union européenne. Elle a donné 1,8 milliard d'euros en Moldavie. Enfin, pardon, mais tout cela n'a pas d'effet, Vera Grandseva.
Oui, peut-être on peut critiquer un peu ici l'Union européenne et sa détermination pour continuer l'élargissement et le travail de convaincre les pays aussi quand même éloignés de l'Europe. Bon, la Moldavie est moins éloignée, la Géorgie quand même c'est assez loin. Effectivement, on voit que peut-être c'est un peu les limites aussi de l'élargissement de l'Europe parce que c'est assez loin. Déjà, ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionne avec des problèmes. Donc oui, peut-être c'est un peu en crise interne européenne qui aussi qu'on voit dans les relations avec ces pays-là.
Mais parce qu'ils le vivent comme une forme de mépris. Max Herman Gastineau aussi, notre vision de ces pays-là, il dit souvent ici, quand on parle d'approfondissement, d'élargissement, on se dit, non, ça va faire trop de pays. Est-ce que c'est ça aussi qu'ils entendent ?
Mais ce sont des pays qui ont envie, en effet, de peser sur la ligne européenne. Au fond, l'Europe, en matière géopolitique, comme en matière environnementale, comme en matière énergétique, c'est le produit d'un rapport de force entre États qui ont des intérêts différents. Et donc, aujourd'hui, en effet, même en Europe centrale, même en Europe orientale, on estime qu'on a une autre tonalité à faire valoir.
Otar Zorabichvili, en ce moment même, et sans doute ce soir et dans la nuit, elles vont continuer. Il y a des manifestations déjà à Tbilissi, en Géorgie, donc, pour protester contre ce qui ressemble à un scrutin tordu.
Il y a des manifestations énormes qui ont commencé dès ce soir. Ça donne de l'espoir et il y a des enquêtes qui sont conduites avec l'aide de l'Europe. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être faut-il regarder d'une manière un petit peu différente l'avenir européen. On est là en train de regarder un pays qui, à l'évidence, un pays acquis pour l'Europe,
Parlez de la Géorgie, votre pays.
Et n'oublions pas non plus son voisin arménien, qui est en train de se tourner également vers l'Europe. Alors, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à abandonner définitivement ces pays qui sont vraiment convaincus, alors que nous avons des discours qui sont quelquefois un petit peu plus retenus, qui sont convaincus, et tout l'horizon de la mer Noire.
Eh bien, nous resterons sur cette note d'espérance et cette interrogation. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat et d'avoir exploré la question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.